LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Eh les gars, silence.
Les gars, on s'en fout, maintenant c'est le match.
On sait tous ce qu'on a à faire, hein. Nouveau système, on se viande sur le terrain.
On a l'air que c'est pas anodin de venir gagner au match, les gars.
Sur les côtés, faites très attention. Evan, Jojo, parlez-vous. Et Adama, Alassane, parlez-vous.
Nous avons le même comportement que depuis le début de la saison, les gars.
Je vous veux exemplaire.
Si on commence à maîtriser le jeu, encore ils vont s'énerver, comme d'habitude.
Plaisir les gars, c'est le D1, on est là pour s'amuser aussi. Hein.
Mais oui.
Regardez, comme Gabin, il y a nos réjouis, il peut pas jouer les gars, alors on se bat déjà pour lui aussi.
On se bat pour tout le monde les gars. Pour même pour nous, tous ceux qui sont là.
Je joue pour eux aussi.
On est guerriers sur le tag.
Être un bonhomme, une série documentaire de Romain de Becdelièvre et David Jacubovien.
On est tous les gars ensemble, le cohésion. Là.
Épisode 2, les cordes sensibles.
La voix masculine hégémonique, elle est un peu comme un bloc et elle s'impose. Et je crois que ça en dit long.
Daisy Le Tourneur, essayiste.
Une voix masculine va avoir tendance à être moins chantante, moins modulée, à être davantage monocorde et être vraiment égale, idéalement, dans la plupart des situations. Et d'avoir ce côté de basse, de venir de la poitrine, surtout pas de la tête, et d'être un moyen d'occuper l'espace d'une certaine façon.
La scène musicale, répétition des hommes du chœur de Radio France.
Qu'est-ce que c'est la voix masculine? Pour moi, dans l'imagination collective, forcément, c'est la voix grave. C'est la voix bien timbrée, souvent virile. Et moi, je partage cette opinion. Pour moi, masculinité vocale...
Robert Jezierski.
Ou masculinité dans la voix, c'est exactement ça.
Artiste de chœur, pour le chœur de Radio France... Basse.
Et j'observais que, par exemple, je côtoyais un peu le théâtre dans ma vie passée, et souvent le directeur de théâtre quand même cherchait les voix graves, parce qu'il disait que ça a plus d'impact sur le public. Pourquoi? Alors je ne suis pas entré, mais il y a quelque chose là-dessus.
En tant qu'homosexuel, par exemple, il fallait gommer. Si on voulait qu'on nous propose d'autres rôles que celui du PD de service. Et donc, il fallait un peu désaffecter, parce que la tendance naturelle, de par mille... Enfin, pas du tout naturelle, donc archi-sociale, en tout cas, moi, c'était d'avoir un phrasé un peu plus détendu, un peu plus lisible, et qui donc pourrait être un peu plus associé à ce qu'on entend d'une sorte d'homosexualité un peu iconique. Alors que l'idée, c'est justement, au travail, d'arriver à timbrer, de gommer et d'enlever les inflexions.
Michael Delis, comédien, auteur... Et metteur en scène.
Ce qui est à la fois effrayant de se dire en fait je suis en gestapo permanente pour ne pas être lisible et en même temps si je ne fais pas ça, de fait, c'est ce qui s'est passé un peu au départ juste quand j'avais mes cheveux longs, on ne va m'appeler que pour faire des travestis Jésus de temps en temps ou des personnes du grand siècle. Mais si je voulais faire autre chose que des putes du bois de Boulogne, il fallait changer de look et aussi travailler ce truc-là où de fait je peux être un jeune père de famille ou cadre dynamique. Qui, avec un phrasé comme ça, on va pas penser à moi pour ça.
Écartez, sortez de là! Regarde au deuxième, Jojo!
Souvent, les rôles de père, de protecteur, de roi sont distribués dans les opéras par les voix basses. Alors, pourquoi, on peut se demander? La voix basse, selon moi, devrait apporter certaines noblesses, certaines paix, certaines maturités Mais sans perdre la virilité, elle donne cette paternité, cette protection quelque part, et noblesse, surtout la noblesse. C'est comme ça que je vois cette voix-là, la voix de basse.
Ouais. Non, non, c'est ça, les gars. Allez, allez, allez. C'est bien, on rentre dans le match, on y est là. Continuez.
Jusque-là, le terme patriarcat, il avait son sens originel, c'était vraiment le pouvoir des pères.
Francis Dupuy-Derry, professeur en sciences politiques.
Il y a même un livre, Sir Robert Filmer, au XVIIe siècle, qui avait écrit Patriarchy. C'était un livre qui justifiait le pouvoir des rois en Angleterre. Et il disait, dans une sorte de récit mythique et théologique, Dieu donne le premier pouvoir à Adam. Adam reçoit de Dieu un pouvoir à la fois comme père et comme roi de l'humanité. Et donc, de père en fils, nous serons à la fois chef de famille et roi du peuple. Et donc, le pouvoir du roi et le pouvoir du père sont similaires et c'est le patriarcat. Et à partir des années 70, des féministes radicales comme aux États-Unis Kate Millett ou en France Christine Delphi, par exemple, entre autres, vont reprendre le concept de patriarcat et vont dire on le limite plus nécessairement au pouvoir des pères sur la famille, mais pour nous maintenant, le pouvoir patriarcal, c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc, le patriarcat, c'est pas comme la pluie ou des nuages, ou c'est pas comme l'oxygène, ou c'est pas comme quelque chose de qui flotte comme ça, là. C'est quelque chose qui s'inscrit dans les institutions. Les institutions, c'est quoi? C'est la famille, l'école, l'État, les médias, l'économie. Et c'est pour ça que, à chaque fois que des femmes ont voulu rentrer dans les institutions qui étaient contrôlées par les hommes et qui étaient même uniquement masculines, parce que l'Occident, dans la modernité, c'est quand même les hommes qui ont inventé la non-mixité de sexe, hein, qui sont l'Assemblée nationale, les armées, les universités, la médecine, tout ça, le droit, les tribunaux, c'était aux hommes et seulement aux hommes, de par la loi. Et donc, à chaque fois que les femmes ont voulu rentrer dans ces institutions, qui étaient patriarcales dans le sens où elles n'étaient composées que d'hommes, les hommes ont résisté.
Les barytons, faites attention sur votre entrée sur la mesure 7. Ça reste mes deux portées aussi, c'est pas porté d'un coup.
La voix de baryton est la voix intermédiaire des voix d'hommes. Donc elle se situe entre la voix la plus aiguë, la voix du ténor, et la voix la plus grave, la voix de la basse.
Nicolas Chopin, baryton, dans le cœur de Radio France.
Si je vais un petit peu là-haut, la 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 la, ce qui est un peu ma tessiture confortable, exploitable entre guillemets. La la Et moi, dans cette tessiture grave-là, ça commence déjà plus trop sonner, là où des collègues de mon public de baryton sonneraient encore une tierce en dessous. Voilà, donc on a tous un melting pot de tessitures différentes qui permettent au final que ce soit à peu près homogène dans le cœur, ou justement que ceux qui ont plus de couleurs dans le grave compensent ceux qui en ont moins, ceux qui ont plus l'aigu qui tient sur la longueur compensent ceux qui l'ont, ainsi de suite.
Moi c'est Nils et j'ai 15 ans. C'est mon anniversaire hier.
Bonjour, moi c'est Zadig, je suis en classe de seconde 2 aussi, au lycée Jacques Decourt.
On s'est rencontrés en 5e du collège, donc ça va faire 5 ans. 5 ans, ouais. Bah on a toujours eu des amis en commun, mais même par rapport au groupe d'amis, on est meilleurs amis, je sais pas comment dire ça, mais c'est bizarre un peu, mais c'est pas... C'est pas comme les autres.
C'est les deux potes dans le groupe de potes, en gros. C'est le duo dans le groupe.
Mais donc oui, je pense même qu'on a grandi ensemble et c'est bien parce qu'on se complète un peu du coup. Même si des fois moi je vais penser d'une manière, il va en penser d'une autre. Et qu'on aura nos manières de régler ce différent. Mais
Rien qu'à voir les photos, les vidéos qu'on prenait en 5e, on voit qu'on a grandi mais qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, que ce soit en 5e ou maintenant, on a grandi pareil, quoi.
Ma voix, en fait, j'ai jamais vraiment fait attention aux choses que je pouvais pas contrôler. Enfin, j'y prête pas attention, parce que je me dis, même si j'y prête attention, ça va plus me causer du tort qu'autre chose. Parce que même si j'ai envie de le changer, je pourrais pas. Donc j'ai jamais vraiment prêté attention à ma voix, mais je sais qu'en réécoutant des vidéos de moi quand j'étais plus jeune, je le sens que ma voix elle a vachement changé et bah, elle a baissé dans les tons. C'est tellement progressif de muer. C'est comme grandir, on s'en rend pas compte de grandir en vérité. On voit qu'on a grandi en regardant une photo qui date d'il y a 3 ans, mais on... c'est comme muer. Enfin, moi, je me souviens pas de Zadig avec une voix aiguë, je me souviens de Zadig avec la voix qu'il a d'aujourd'hui. Et je suppose inversement.
Ouais, pareil. Enfin, même, il y a aucun moment où on a vraiment mué en même temps. C'était vachement progressif. Enfin, il y a pas un moment où moi j'avais une voix grave et lui, une voix d'enfant ou inversement.
Contrairement à des amis, puisqu'on a un ami qui s'appelle Théophile, et lui, il avait vraiment une voix aiguë pendant longtemps. Et un été, il est revenu et là il avait vraiment une voix grave, mais grave grave, enfin pas grave non plus, mais vraiment, enfin beaucoup plus grave qu'avant. Et nous on n'a pas du tout sur de mu où c'était rapide, nous c'était vraiment progressif et on a mu en même temps, je pense.
Moi, je chante depuis l'âge de 7 ans. Et toute ma vie, je chante. Je chantais dans l'ensemble qui s'appelait Les Rossignols de la Pologne. C'était un groupe qui était très connu. J'étais soprano. Après ma mue, j'ai basculé vers la, doucement, petit à petit, vers la voix basse. Et j'ai vu une transformation aussi mentale avec qui allait avec. Ça veut dire... je ne vais pas dire que je devenais plus masculin ou plus viril. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quelque part, on s'est différencié, on est différent que les voix aiguës. Alors, vous savez, il y a deux façons de passer la mue. Il n'y a pas trois, il y a deux. Il y a certains qui passent vraiment très rapidement. J'avais un collègue qui a passé en une nuit. Je lui ai dit au revoir. Il peut parler comme ça, comme l'enfant. Et le lendemain, il me parlait comme ça. C'est spectaculaire, c'est rare, mais ça existe. Et la plupart des gens passent lentement. Ça peut durer pendant 2-3 ans même. Chez moi, c'était comme ça. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'ai fini vraiment à 17 ans. Et la voix se casse. On passe de son d'enfant, tout d'un coup, son masculin. C'est très perturbant. Parce qu'en même temps, mentalement aussi, on ne sait pas qui on est. On est enfant, on est un homme, c'est une période très délicate pour un garçon. Et surtout, je trouve que pendant la mue, on ne devrait pas chanter. On devrait faire la pause, oui. Parce que c'est une période assez délicate pour un garçon, oui, mentalement et vocalement. Et il faut dire qu'avec l'âge, on mue quelque part tout le temps les hommes. Même les barytons confirmés, ils deviennent à la fin de sa carrière plus basse baryton, pour ne pas dire les basses même. Et ma voix, il y a 20 ans, elle était, n'était pas baryton-baryton, elle était basse baryton 10 ans, aujourd'hui elle est vraiment basse. Toutes les voix masculines basculent vers le bas avec l'âge. Toutes, même les ténors. C'est un phénomène, oui, ça existe.
Dans un parcours de transition, la voix, c'est super important. En tout cas, ça l'a été dans le mien.
Daisy Le Tourneur, autrice de « On n'est pas mec ».
C'est pas quelque chose de naturel. C'est vraiment un de ces trucs dans la vie où on a l'impression que la voix, c'est notre voix, c'est nous. C'est super personnel et ce serait donc forcément super naturel. Et puis, un jour, on transitionne et on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à parler avec... la même voix qu'avant, parce que quand on décroche le téléphone, les gens vous disent « bonjour monsieur », et c'est un peu vexant. Et moi j'ai été voir une orthophoniste avec qui j'ai travaillé pendant quelques semaines, qui m'a appris quelques trucs pour changer ma voix, pour pas forcément parler d'une voix beaucoup plus aiguë, mais c'est des questions de modulation, des questions de placement de la voix. Et en fait, c'est révélé à moi tout un monde de choses super intéressantes. Par exemple, l'observation que, en fait, jusqu'à la puberté, les cordes vocales des garçons et des filles sont les mêmes. Mais les enfants, par mimétisme, à force d'entendre leurs parents et les autres adultes, vont adopter des voix plus graves pour les garçons, plus aiguës pour les filles, vont apprendre à moduler leur voix, à tout simplement parler autrement. Et en soi, on se rend compte que la voix est quelque chose de socialement construit. Et ce qui est formidable, c'est que quand on apprend à changer sa voix, et ben ça libère aussi énormément de choses, parce que, en tout cas, pour moi, c'est la façon dont je l'ai vécu. changer ma façon de parler avec ma voix, ça a changé ma façon de parler avec les mains. Ça a changé énormément de choses et ça m'a permis de vraiment prendre acte en fait de la transition au tout début de mon parcours, à un moment où je patientais que les hormones fassent leur travail sans moi, bah, j'ai pu travailler là-dessus et avoir un rôle actif sur quelque chose qu'on imagine pourtant totalement naturel.
En fin de compte, je me demande pourquoi je me marre. Parce qu'au fond, je suis drôlement triste.
À cause de Madeleine ?
Ouais.
Tu as remarqué, dans le mot masculin, il y a le mot masque et il y a cul.
Et dans féminin ?
Il y a rien.
Le masculin, il faut qu'il soit avec le féminin et le féminin avec le masculin. En français, on a une expression qui est très parlante. On parle de sexe opposé. Et quand on y pense, c'est intense comme expression. Mais en fait, quand on voit les définitions, soit du sens commun, soit les définitions du dictionnaire de l'Académie française, ou si on voit les définitions, par exemple, de l'Association américaine de psychologie, aujourd'hui encore, ce qui est masculin n'est pas féminin, ce qui est féminin n'est pas masculin. C'est un et le contraire de l'autre. Et donc, ce qui est masculin, c'est encore aujourd'hui, en 2023, c'est la force, l'action, c'est le stoïcisme, donc retenir ses émotions, l'agression, la compétition et la domination. C'est quand même intense. Vous aurez compris que c'est des concepts qui ne sont pas tant psychologiques qu'en fait, on parle réellement de concepts, on pourrait dire, politiques. La domination, l'agression, la compétition, ça fait référence à des enjeux politiques, en fait, en réalité. Et donc ça, c'est ce qui est masculin. Donc un vrai homme, ce serait celui qui incarnerait, qui exprimerait cela. Et à l'inverse, le féminin serait plutôt bienveillance, la douceur, la paix, le relationnel, la dépendance. Et donc, on voit bien là que les deux, le masculin et le féminin, ils sont, quand on veut être gentil, on va dire que ce sont des sexes complémentaires, qu'un a besoin de l'autre ou qu'un complète l'autre. Mais en réalité, on voit bien avec ces qualificatifs que je viens de nommer qu'en fait, ce n'est pas une complémentarité à égalité, c'est une complémentarité, mais dans la hiérarchie.
Il existe une notion qui est en dehors de tout clivage politique, de couleur de peau ou de culture, touche et rassemble ce qui pourrait être la plus grande communauté mondiale. Cette notion est le socle fondateur du groupe humain le plus important en nombre, le plus dense et le plus dangereux jamais réuni. Cette notion, la voici. Être un vrai homme.
Moi, j'ai commencé le rap avec une voix claire que la mienne. Et très rapidement, j'ai eu envie d'inventer un personnage vocal qui me protégerait de l'extérieur. Et donc, j'ai rappé pendant les 30 années qu'on suivit avec une voix très grave, saturée, un peu qui ressemble plus au son gutturaux des moines tibétains qu'aux chanteurs de métal. Mais voilà, c'était une voix saturée.
Dès de cabale,
et,
rappeur, auteur du spectacle, Fêlure ou Le silence des hommes.
J'ai souvent défini comme une espèce de masque, et pas pour jouer à notre personnage, mais pour protéger la personne que j'étais, parce que très vite, dans les textes que j'écris d'abord en rap, il était question de me livrer un peu, d'être dans l'introspection, etc. Et pour moi, ce que je trouvais intéressant, c'était le décalage entre l'âpreté et la dureté de cette voix et les choses très poétiques que j'essayais de dire et de défendre. Donc cette voix s'est imposée, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens faisaient la grimace en l'écoutant. Et ça me plaisait beaucoup. Parce que, quelque part, c'est comme si, dans ma démarche, à l'époque, pour pouvoir accéder à ce qui se passait au fond de moi, il fallait un tout petit peu se faire bousculer par la forme, par le son de la voix. Donc cette voix m'a accompagné beaucoup, sur scène, dans mes spectacles, dans mes concerts, etc. Et le dernier morceau que j'ai fait avec ma voix claire, en 1993 donc, avec mon groupe de l'époque Cabal, c'est un morceau qui parlait de l'inceste. Et qui n'était évidemment pas du tout autobiographique. Lol. Et à l'époque, j'avais pas mis la lumière sur les recoins sombres de mon histoire intime et personnelle. Et c'est intéressant que, près de 30 ans plus tard, le premier album avec ma voix claire commence par le morceau titre de l'album Audience préliminaire, où je dis dans l'introduction que j'étais victime de violences sexuelles dans l'enfance. Et pour moi, ce que masquait ma voix pendant ces années, c'était cette histoire-là, quoi. Et je suis revenu à ma voix originelle parce que j'avais aussi l'impression que j'avais suffisamment sécurisé l'espace pour enlever ce masque-là. Et pour moi, c'était assez important de la ranger et de dire cette armure-là, je n'en avais plus besoin à un moment donné, et puis d'évoluer différemment. Et donc, quand elle apparaît, c'est plus pour le son. Et puis voilà, justement, c'est aussi moi qui fais un clin d'œil à mon moi d'avant et qui dit « C'est vrai que t'étais un vrai homme à l'époque. » Donc ouais, c'est bien aussi de, sans tout annuler, c'est bien que je puisse regarder ça avec cet œil-là, parce que c'est aussi ce dont il s'agit. Pour moi, en tout cas.
Petit Tarzan, le danseur équilibriste, est tombé dans le vide. Il est comme mort. Il est plongé dans un coma profond connu de lui seul. Le quotidien se tient devant lui et petit Tarzan ne répond plus. Il se cache. Il va passer de longues années à étudier en silence. Étudier les techniques secrètes du camouflage pour assurer sa survie en milieu hostile. Petit Tarzan ne répond plus. Il se cache. Jusqu'à nouvel ordre.
On s'endort, les gars!
Violet, taisez-vous, Violet! Elle est pas là, la faute!
Être un homme, un vrai, c'est être
Désir le tourneur.
Maître de ses propres émotions.
Essayiste.
C'est ne pas les laisser transparaître, ne pas les laisser se guider et rester guidé par sa raison, mais surtout pas par les émotions qui sont globalement perçues comme quelque chose de féminin. Il y a cependant une exception dans ces émotions que les hommes peuvent se permettre, c'est la colère. La colère est peut-être la seule émotion qui peut être vraiment connotée masculine, puisque en fait, elle permet d'imposer son point de vue, d'imposer son discours et d'imposer sa force. La colère masculine est finalement souvent assez bien vue, tandis que la colère féminine, elle est plutôt vue comme justement faillir à sa condition de femme. Tandis qu'un homme, en colère, c'est un homme qui joue son rôle d'homme. Parfois, on peut dire peut-être trop. Une femme en colère, c'est une femme qui ne réussit pas à être femme.
Suivez ! Oui !
Hey, Ludo, belle !
Oh, derrière ! Sérieux, là ! Oh ! Hey ! Restez sur les appuis, derrière ! Merde, là-haut ! Hey, sérieux, là, hein !
Bien!
Allez, ma Maria!
T'as pas expliqué le match comme ça, si?
Ah, si.
Ah ouais?
C'est que le début.
Non, mais t'arbitres de touche, il y a un coach qui t'arbitre de touche.
Ah, je suis les deux.
Tu veux gueuler aux oreilles pendant 10 minutes?
Ouais, ouais, mais on va mettre ça. Je suis les deux, moi.
Non, mais oui, mais d'accord.
Parlez-vous! Parlez-vous! Il y a des problèmes, parlez-vous!
Coach, ça se passe bien, ça y est.
Non mais ouais,
mais laisse-le, c'est le coach.
Tiens, t'entends comment il gueule ou
pas? Ouais, mais c'est
le
coach.
Franchement, tu viens à Toulouse, c'est encore pire.
va pas rentrer dans les provocations.
Ah, mais je ne rentre pas dans les provocations.
On va pas rentrer dans les provocations. D'accord, tu fais arbitre de touche et t'arrêtes de me casser les couilles, d'accord?
Pas deux.
Allez, Violet, allez, Violet.
Oui, ça passe. Allez.
Selon la position sociale où on est à un moment donné dans une société donnée, la colère ne va pas être reçue de la même façon. C'est-à-dire que lorsqu'un homme politique, lorsqu'un patron, lorsqu'un manager, lorsqu'un entraîneur de foot se met en colère et passe un savon à ses subalternes, généralement, c'est bien en fait, c'est son rôle. Il est là pour imposer les règles, pour se faire respecter, etc. Lorsque, évidemment, c'est une personne qui va être en bas de l'échelle sociale parce que c'est une personne... pauvre, précaire, qui est en bas de la hiérarchie de l'entreprise parce que c'est une personne racisée. Quand un homme est dans cette position-là, sa colère va évidemment être dévalorisée, voire pathologisée. La même colère chez Emmanuel Macron n'est évidemment pas perçu de la même façon que la colère d'un jeune qui est racisé, qui vit dans les quartiers, et où là, on va y voir le signe de sa sauvagerie, son animalité, son incapacité à se contrôler.
En voit tête, c'est... Là, je suis en voie de tête complète. Alors, en fait, c'est un changement de position. Alors, au niveau du souffle, quand j'utilise la voie de tête, pratiquement, le souffle, je l'utilise presque pas. Enfin, bien sûr, il y en a un peu, mais j'ai pas un soutien en voie de tête. C'est-à-dire que si on va, on fait l'exemple. Là, j'ai pratiquement le soutien. Il y est, bien sûr, il y a quand même émission d'air, mais il est léger. Et la voix lyrique, alors moi qui ai ma vraie voix, on peut prendre...
Francis Rodière, ténor au cœur de Radio France.
Winterstür, ma vis an dem vorne Mond, in mildem Licht leuchten der Lenz, auf linden Lüften leist und lieblich. Là, ça correspond à ma tessiture de voix moyenne, ni trop haute, ni trop basse, avec un soutien à peu près normal.
Moi, on m'a pris pour une fille pendant très très longtemps, j'en parle dans le spectacle. Et notamment, je me rappelle des premiers cours en 6e et en 5e, où j'étais très poupon avec des grosses boucles, grosses joues, des grosses lunettes rondes. Et une petite voix, forcément, d'enfant qui est loin de la mue, où l'adolescence vraiment retarde tous ses signaux. Et donc, c'est au moment de l'appel du professeur, sur les premiers jours de rentrée, il faut dire oui et dire son prénom. Quoi. Et je me rappelle d'essayer de trouver la voix la plus caverneuse du monde pour dire oui, pour être sûr que le prof comprenne que j'étais un garçon, à ce moment précis, Michaelis, oui. Je me rappelle des copains ou copines qui étaient comme ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, oui, mais en même temps, il faut bien qu'il entende, vu que l'image ne colle pas. Donc moi, ce truc de la voix a été vraiment une sorte de spectre un peu angoissant, de dire déjà là, il y a un endroit de trahison, où là aussi, on va comprendre que je colle pas avec le genre auquel je devrais... adhérer ou ce que je devrais représenter.
Michael Delis, comédien.
Et après,
auteur et metteur en scène.
Le prof de théâtre que j'ai eu au conservatoire, lui, son axe hyper important de formation, c'était la voix. Et donc, il nous avait donné beaucoup de choses à lire là-dessus, sur tout ce que ça vient raconter d'identité vocale, de personnalité, de genre forcément. Cette tendance qu'on a quand on est timide à blanchir un peu la voilée pour être hyper transparent, tout ça. Et au contraire, justement, typiquement, quand on est un garçon, c'est timbré, c'est plus puissant. Donc ce prof, il était super pour ça. Et je me rappelle toujours d'une phrase qu'il nous disait, où il parlait de la voix du slip. Il disait, voilà, descends là, c'est plus bas que ça. Tu vois, et effectivement, la timidité, on a tendance à percher et aller plus dans les aigus ou dans la tête. Et donc, ouais, moi, j'ai vraiment découvert ma voix avec cette formation théâtrale où je dis, oui, effectivement, Je me rendais compte que je la plaçais pas bien, je me rendais compte qu'elle était affectée par plein de choses, des paniques, des envies de faire comme ou de voiler. Et donc ouais, c'est un outil tellement révélateur, à la fois de sa perception, de ce qu'on veut raconter de soi, mais aussi de ce qu'on nous inculque, de la façon dont on la module, dont on la triche, dont on la cache, dont on la planque, et dont on la silencie aussi. C'est un endroit passionnant d'étude.
Je vais faire un petit bout d'intro, et après je vais essayer de ripper à la narration du début.
Tous les hommes sont des salauds, Michael. Des salauds et des baiseurs, sauf mon père. Quel couple il formait avec ta grand-mère. J'aurais dû me marier avec Alain, tu vois. Il faisait des études de vétérinaire, on jouait au tennis ensemble, et j'avais fière allure sur son beau monoski. Et en plus, papa l'aimait beaucoup. Mais j'étais tombée folle amoureuse de votre père. Oh, quelle idiote. Si j'avais su que j'allais signer pour 34 ans de dépression et 12 ans de lithium...
C'est quoi le lithium, maman?
Ce sont des bonbons pour les grandes personnes, mon cœur. Toi aussi, plus tard, tu devras en manger beaucoup, comme maman.
Des bonbons? Moi, j'ai pas envie d'attendre, moi, maman.
Ah oui, mais ça, chérie, tu sais, la vie n'est faite que de ça. D'attente. D'attente et de souffrance, alors autant t'y habituer tout de suite.
Je me rappelle très bien enfant la peur que j'avais de la voix de mon grand-père, l'autorité masculine passée par la voix, passée par le cri. Et ouais, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie du package de la mascarade masculine virile, de quasi cri grognement. Animal, mais même à l'endroit sexuel. Je trouve ça très drôle de voir comment on a aussi conditionné le gémissement, la jouissance. Ce truc de masculin est très étrange. On est à l'endroit un petit peu caverneux de la bête. Et ce truc très féminin, genre un peu en l'air, un peu comme ça. Et tu dis, là encore, que ce soit la pornographie, que ce soit la fiction, on produit ça aussi. Et on questionne pas ce truc-là, mais vocalement, on est dans ce truc, voilà, l'homme, c'est l'ours, c'est le lion, c'est le brame. On est quand même dans ce truc-là qui est fascinant, quoi. Et tu te dis, waouh. Et donc, même à l'endroit de la jouissance, ça aussi. C'est-à-dire, bah tiens, on ne s'autorise pas à faire du bruit. De même que nous, garçons, on va pas s'autoriser à faire... Alors que des fois, c'est agréable aussi de dire, bah, on est juste dans un truc un peu plus léger, un peu plus, moins en maîtrise et moins de... je suis là avec mon gros gourdin, sortant de la caverne.
Dextérite, moi, s'il vous plaît, 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Les connaisseurs, les amateurs de porno hétéro que j'ai rencontrés étaient vraiment catégoriques sur le fait qu'un homme dont on entend les gémissements, les râles à l'écran, c'est un mauvais acteur.
Florian Voros, sociologue.
Voilà, par exemple, un acteur comme Manuel Ferrara, qui est un acteur un peu playboy, qui renvoie en tout cas une image de lui-même assez narcissique, qui se met pas mal au centre de l'écran, qui a un physique assez fort et caractéristique, qui va être un peu un protagoniste. Il énervait très fortement les amateurs de porno hétéro que j'ai rencontrés, qui trouvaient qu'il se mettait pas assez en retrait. Donc ça, c'est pour la voix, c'est aussi ça, c'est-à-dire que dans le porno hétéro, on entend peu, en général, très peu la voix des hommes, là où au contraire, du coup, la voix des femmes est amplifiée, exagérée. Dans le porno gay, il y a beaucoup plus de place qui est liée au gémissement, au râle, aux voix des hommes. Dans le porno gay, il y a une place importante aux vocalisations masculines. Et dans le porno hétéro, c'est beaucoup moins présent. Et je pense que ça vient un peu amplifier déjà un partage un peu stéréotypé qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un acte hétérosexuel. L'idée, c'est que ce serait plutôt les femmes qui seraient amenées à faire du bruit plutôt que les hommes.
Allez, on rentre, les gars. Dans 5 minutes, on part
pas, vestiaire de l'équipe de football.
Allez, gars, 5 minutes.
Du FC Mass Sainte-Puelle.
Il y a rien, les gars. Allez, stop. On dit rien. On se pose 5 minutes. On respire un peu, là.
Ah,
vous parler, hein. Enfin, oui. C'est grâce à la mi-temps.
Non, 5 minutes, 5 minutes, on pose. 5 minutes, on pose. Les gars, vous allez galoper 5 minutes. Après, on attend, hein. Après, on a 10 minutes pour discuter. Mais 5 minutes, on pose.
Ben, le silence des hommes, c'est que, effectivement, en fait, quand soi-même, on ne peut pas parler des émotions qu'on ressent, déjà, on n'ose pas se les avouer à soi-même. Quand on se les avoue à soi-même, il faut trouver la force d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Et moi, par exemple, pour parler du silence des hommes, je peux parler de mon père qui... je pense, n'a jamais eu de discussion à cœur ouvert avec moi ou avec aucun de ses enfants, n'a jamais dit « je t'aime » et n'a jamais dit qu'il allait mal quand ça allait mal. Il se renfrogne, il prend sur lui et il boit un coup avec ses copains et avec qui il va discuter de mécanique, de sport, etc. Souvent, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les relations d'amitié masculine, c'est que plutôt que de parler directement de l'un à l'autre, on va utiliser un objet de discussion. Et cet objet, ça peut être le dernier match de foot, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être tout un tas de sujets de discussion stéréotypiquement masculins ou pas, qui vont en fait servir à communiquer l'un avec l'autre.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de...
Luz.
Comment dire de...
Auteur de bande dessinée.
Moi, je joue pas aux jeux vidéo. Enfin, bon, pouf, pouf, ta gueule, tac, tac, tac. J'ai l'impression que les hommes parlent assez peu entre eux de ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la discussion de l'ordre de la vantardise sexuelle, mais de ce qu'on est à l'intérieur, de ses envies sensuelles peut-être, de sa position dans le genre masculin, ça on n'en parle jamais. Je me suis retrouvé des fois avec des gens que je pensais très ouverts sur pas mal de choses, et tout d'un coup on se retrouve, tu te retrouves dans une soirée où tu vas regarder le foot. Et donc du coup... Être un homme, c'est parfois regarder en tant qu'homme la même chose que les hommes regardent, c'est-à-dire parfois le foot, parfois des jeux vidéo, parfois c'est l'amour des hommes entre les hommes, c'est regarder dans la même direction, mais dans une direction qui n'est pas forcément celle de la communication. Et je trouve que ça manque, mais c'est peut-être pas facile, parce qu'il y a des années de non-communication masculine derrière nous.
Aujourd'hui...
Dès de cabale.
Quand on me demande sur quoi je travaille...
Rappeur, auteur du spectacle, Fêlure ou Le silence des hommes.
Si je dis simplement, on travaille sur l'intimité et sur quelque chose qu'on appelle le silence des hommes, ce dont les hommes n'osent pas parler, la personne en face comprend très bien de quoi je parle, parce que le silence est consécutif à notre construction. Je ne dis pas que les femmes ne se construisent pas dans le silence, je ne dis pas que les non-binaires ne se construisent pas dans le silence, je ne dis pas que n'importe qui se définit comme il l'entend ne se construit pas dans le silence, je dis que moi, de ma place, comme le traitement que je veux faire, c'est de partir de ce que moi je suis, je sais que je me suis construit en silence, donc je me dis que mes voisins, les enfants de mes voisins, les potes des enfants de mes voisins, se sont peut-être construits aussi dans le silence. Et c'est fou de voir que ces dernières années, à travers mes voyages, que j'ai pu faire dans le cadre du travail, comment à chaque fois que j'ai posé cette question, les réponses se ressemblaient, quoi. Donc c'est de cette place-là que je parle quand je dis le silence des hommes. C'est le silence des hommes que j'ai rencontré. Et donc c'est, pourquoi on se tait en fait? Qu'est-ce que ça implique de se taire? Qu'est-ce que ça fait de nous? Et qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir continuer à se taire? Et là,
Alors l'image de la flèche plantée dans le cou des hommes, je la tiens du chanteur québécois Pierre Lapointe, qui, dans une très belle chanson qui s'appelle « Moi, elle si »,
Maria Pourchet,
met en scène
romancière.
Une jeune femme qui parle de la fuite d'un homme, des défaillances d'un homme, et elle évoque cette flèche que tous les hommes ont plantée dans la gorge. Et en gros, si une flèche qui les empêche de parler, mais si jamais ils l'enlèvent, ils meurent.
Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand il s'allonge auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici n'arrachent beaucoup, ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou, puis quand ils parlent, ça leur fait mal.
Et cette image-là, pour moi, elle évoquait très justement, mais de manière très troublante, mon premier étonnement d'enfant, c'est-à-dire le silence des hommes. Enfin, c'est mon premier étonnement quant aux adultes, c'est que les femmes parlent et les hommes se taisent. Alors, c'est très rudimentaire, mais c'est ma toute première étude de genre, je ne sais pas c'est quel âge j'ai, mais 6-7 ans par là-dedans. Et je constate voilà, que les femmes parlent et les hommes se taisent. Enfin, donc les femmes parlent, c'est-à-dire qu'elles parlent des hommes, elles leur parlent, elles sollicitent leurs opinions, leurs commentaires, leur autorisation parfois, elles demandent beaucoup. Et puis, et les hommes à minima répondent, me semble-t-il. Enfin, c'est pas me semble-t-il, c'est la réalité que je vis. Ils répondent, ils s'énervent. À eux aussi, les formules laconiques, brèves, ce langage très arbitraire du départ. Les hommes quittent la pièce, voire au pire des cas, quittent la maison. Mais voilà, le langage parle silence. Alors, l'autre étonnement, c'est que on pourrait dire les femmes parlent et les hommes écoutent, mais je m'aperçois qu'ils n'écoutent pas non plus. Et finalement, ils ne veulent pas ou ils n'ont pas cette présence dont la parole et l'écoute sont les symptômes. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là, en fait. Comme s'ils absentaient vraiment totalement le territoire du dialogue. Moi, je trouve ça inquiétant parce que je suis côté des femmes. Et donc, ça pose une autre question, c'est où sont-ils ? Donc, dans mon imaginaire d'enfant, ça développe des idées à la fois de vie intérieure. Je me questionne très tôt sur la vie intérieure des hommes et sur leur vie extérieure aussi, leur vie cachée, possiblement. Et d'ailleurs, comme moi, en plus, à l'époque, j'habite assez mal mon propre genre et j'ai l'impression qu'il n'y a d'issue que dans l'adhésion au masculin, c'est-à-dire que mon genre d'appartenance n'est pas le masculin, mais en tout cas, c'est mon genre de référence, comme il y a des milieux d'appartenance et des milieux de référence. Et donc, je vais adopter progressivement ce silence-là, cette réserve-là, cette économie, jusqu'à écrire. Alors, à son tour, l'acteur facile s'installe, juste pour Aurore, dans un récit contrasté. Histoire du jeune Alexis en trois actes, avec un avantage sérieux. Aurore, elle, ne sait pas quand on joue et quand c'est vrai. Elle ne fera pas complètement la différence entre quelqu'un qui s'écoute et quelqu'un qui avoue. Et c'est vrai qu'il a une voix déconcertante. L'année où il a donné lecture des mémoires d'outre-tombe à guichet fermé à l'Athénée, quelqu'un avait écrit que Chateaubriand ou l'annuaire, ça aurait marché. Que ce n'était pas une voix, mais un événement. Acte 1. Commence Alexis, pour se taire ensuite de bonnes minutes. Eh bien, il ne peut pas raconter comme ça, tout à trac, sans médiation, sans figure, c'est vulgaire. Il lui faut un personnage, et il ne l'a pas. Prenez votre temps. Bientôt, il le trouve. Ce sera n'importe qui. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais pas à l'époque le sentiment que la parole était un pouvoir et le silence un autre. Je voyais pas ça en termes de pouvoir. Je voyais ça, parce que je pense que ça en faisait partie, finalement, de maîtriser à ce point la parole, de la retenir, de la distribuer de manière si... de la vaporiser si peu. C'était un pouvoir, en fait, notamment au sein du couple. Mais moi, je vois ça comme un empêchement. D'ailleurs, c'est la phrase de Camus, je crois. Un homme, ça s'empêche. Et je vois ça comme une douleur que j'ai d'ailleurs retrouvée plus tard, à l'âge adulte, chez des hommes, notamment dans la relation amoureuse. C'est les deux moments de ma vie où j'ai vu ça comme un handicap. Pas toujours. Et je ne crois pas que c'en est systématiquement un. Mais en tout cas, dans les récits du viril, le silence, il est plutôt socialement valorisé, esthétiquement valorisé. Ça fait même partie de l'injonction virile, l'économie de la parole, le silence. S'il y a parole, elle doit être efficace et rare. D'ailleurs, la figure cinématographique virile entre toutes, qu'on prenne Clint Eastwood, Robert Taylor, Henry Fonda, John Wayne, Gregory Peck, c'est tous des grands taiseux.
Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que tu es à ma pogne.
Tu
mentir, on raconte pas sa vie.
On dit que c'est la gâchette qui parle pour ces hommes-là. Je veux dire, tout est dit, donc c'est socialement valorisé. Et ça l'est de plus en plus. La figure virile, postmoderne, capitaliste, ultralibérale, c'est encore un homme qui se tait, puisque dans cet environnement-là, dans ce biotope-là, un homme, c'est celui qui crée de la valeur. Donc il agit, il se meut, et quand il parle, c'est qu'il sait, et quand il parle, c'est qu'il décide. Mais c'est tout. Donc, il y a une ambivalence entre la puissance du silence, la qualité de la rareté de la parole à ces endroits-là, et puis comment elle se retourne dans la sphère privée et dans le domestique, c'est plus un échec. Et c'est pour ça qu'on aboutit à ce que j'appelais le langage tragique du départ, de la fuite ou de la disparition. Enfin, ça signe l'échec de la langue, et ça intervient en général quand ça va mal, quand il n'y a plus de victoire possible que par le dialogue, quand les relations s'étiolent, ou se finissent, quand les familles explosent, quand vraiment on a besoin d'un secours par la parole. Les hommes qui ne sont pas capables de la formuler en souffrent énormément, je pense. Ce n'est plus la carapace sociale virile, c'est la défaite.
Ne crie pas. Inspire. Expire. Vérifie ton angle mort.
L'injonction au silence, elle est trop forte, elle est trop ancrée dans le poème de Kipling qu'on cite toujours pour qualifier, énoncer les injonctions viriles. Il dit « Tu seras un homme, mon fils, si tu peux voir en un jour détruite l'œuvre de ta vie. » Je cite de mémoire, détruite l'œuvre de ta vie, et si tu peux sans un mot te remettre à bâtir. Le cœur, le nœud du poème, il est là, sans un mot. Il n'est pas sans un mot te remettre à bâtir. C'est-à-dire, si tu peux taire ta souffrance jusqu'au plus profond de tes cellules et de ta gorge, quoi. Tu seras un homme, mon fils.
Ne crie pas. Inspire. Expire. Ne coupe pas à travers champs. Ne crie pas. Inspire. Expire. Vérifie ton angle mort.
L'alexithymie, c'est un concept qui a été développé pour parler à la base des personnes qui sont sur un trouble sur le spectre autistique. C'est une condition où on est détaché de ses propres émotions. Et donc ce terme qui a été forgé pour parler d'autisme, on a commencé aussi à en parler pour les hommes en parlant d'alexithymie masculine pathologique, parce que c'est finalement une condition qu'on retrouve chez énormément d'hommes à qui on a appris depuis l'enfance que il faut pas pleurer, il faut pas être une chochotte, il faut pas être trop exubérant dans l'expression de ses émotions. Du coup, ils se coupent un peu de leur propre ressenti et ils agissent souvent se pensant neutres, rationnels et totalement détachés. Et en fait, c'est souvent le contraire qui se passe. Quand on ignore ses émotions, elles trouvent un moyen de ressortir hors de notre contrôle. Et bien souvent, les hommes ne vont pas aller chercher de l'aide. Ils vont beaucoup moins en thérapie. Ils vont beaucoup moins en parler à leurs proches quand ça va mal. Et aussi, ils vont souvent pas forcément se l'admettre à eux-mêmes. Du coup, on passe de quelque chose de comment dire, le suicide arrive comme seule solution aux yeux de certains hommes parce que ils savent pas aller chercher de l'aide, parce que c'est quelque chose qui est perçu comme finalement humiliant de pas être indépendant, de pas être maître de soi-même. Du coup, cette Alexis Timmy, elle joue un rôle à la fois dans le suicide, mais aussi dans d'autres comportements à risque, notamment tout ce qui peut être addiction à l'alcool et aux drogues, qui sont souvent des moyens d'automédication pour des hommes qui en fait n'ont pas à leur disposition d'autres moyens qu'ils jugent socialement acceptables de gérer leur mal-être.
Wow, 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 wow. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos crasses, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Wow, 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 wow. Voilà, voilà, voilà.
La charge émotionnelle liée au morceau de PNL, elle est liée au fait qu'ils construisent un espèce de monde audiovisuel très mélancolique comme ça, très immersif et assez hermétique, avec un vocabulaire spécifique, parfois des mots étrangers, d'espagnol, de l'arabe, de l'anglais, un argot spécifique qui est lié à l'imaginaire des banlieues, et surtout des modes de production et un traitement de la voix très cloud, comme on dit, qui crée un effet comme ça très planant.
Clara Eich Delaborde, doctorante en sociologie.
Mais ce qui est spécifique chez PNL, c'est que c'est vraiment traité par un registre très introspectif. C'est vraiment, en gros, l'ennui et la galère de la banlieue du point de vue très intérieur du rappeur. Et du coup, l'autotune, ça fait partie des effets qui sont utilisés pour créer cet univers-là. Mais il n'y a pas que l'autotune, il y a aussi la réverbération, les délais, donc le fait que les voix se répètent comme ça. Et on a des prods qui sont... Là, par exemple, dans À l'ammoniaque, on a une guitare qui est très réverbérée. Le flow, il est mélodique, il est très espacé, donc ça crée un effet de vide.
À la folie. Passionnément.
PNL, ils incarnent bien une évolution de l'expression de la masculinité, c'est sûr. Après, moi, c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon travail, c'est que c'est pas parce que les masculinités, elles sont plus sensibles, elles se montrent plus vulnérables, qu'elles vont dans le sens d'une déconstruction du patriarcat. C'est deux choses différentes, en fait. Un garçon, un homme, il peut avoir l'air très sensible, exprimer sa vulnérabilité et par ailleurs être extrêmement sexiste. Et d'ailleurs, les théories critiques de la masculinité mettent vraiment en garde contre les transformations modernes de l'expression de la masculinité qui pourraient laisser croire à des changements en fait en surface, mais qui ne sont que des moyens de reproduire le patriarcat sous des nouvelles formes. Donc, je veux pas accuser PNL de spécifiquement incarner ça. Et je pense qu'il y a des choses entre guillemets positives, même si j'ai pas envie de rentrer dans des jugements de valeur l'expression de la vulnérabilité chez ces rappeurs là et qu'ils l'incarnent très bien, mais on n'est pas sur un bouleversement de paradigme sur la question du patriarcat en tout cas.
Par contre, je bégaye beaucoup. Hein. Non, parce que je sais que je cherche beaucoup mes mots et je dis beaucoup de « ok » et de « du coup ». Et du coup, enfin, voilà. Je cherche mes mots comme ça. Donc, pour moi, je dis que je bégaye. Après, je suis pas bègue. Hein. Donc, moi, c'est pas de problème pour ça. Ça va.
Axel, étudiant au lycée Jacques de Cour à Paris.
J'ai 19 ans. Je suis élève en classe préparatoire, du coup, aux grandes écoles. Du coup, là, passe 2 ans... travailler en classe préparatoire, après je passe des concours à la fin de l'année, là. Je passe des concours pour intégrer une grande école, ou alors je peux aller à la fac et continuer sur un master. Voilà, là c'est du coup CPC, donc c'est des sciences, c'est plutôt des maths, de la physique et de la chimie. Parce qu'en fait, moi, mon but à la fin, c'est de devenir professeur. J'ai beaucoup de doutes là-dessus, justement, parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de profs, du coup, qui viennent à la fois des enseignants, donc de la primaire, il y a des profs au collège, profs au lycée, profs dans le supérieur qui me disent tous « Écoute Axel, tu risques de regretter. » Du coup, voilà, j'ai des doutes là-dessus. Mon père, c'est un peu... Il travaille dans le truc informatique et il est cadre. et il est chef de projet, voilà, c'est ça, chef de projet. Et qu'est-ce que j'entretiens avec mon père? Alors, c'est un peu embêtant. Je suis jeune, donc c'est pour ça que je dis ça. Je me construis en étant à opposé à mes parents, un peu, c'est comme ça. Mais c'est un peu un cliché, du coup, que j'ai dans ma tête. Je l'aime beaucoup, hein, c'est mon père, et puis il a apporté beaucoup de choses, mais bon, il est issu d'un milieu plutôt la petite bourgeoisie. Il a les phrases type « Oui, les extrêmes se rejoignent ». Un peu... Du coup, moi, je le prends pour un... Je le prends pour un con. C'est normal. Enfin, c'est normal, oui, c'est normal. Et en fait, là, il y a pas longtemps, je suis parti vivre chez ma grand-mère parce que, du coup, je pouvais plus trop vivre avec eux. Et... Disons que pendant toute ma jeunesse, je me suis plutôt basé sur lui ressembler, et comme beaucoup d'enfants, je pense. Et du coup, arrivé à l'adolescence, je pense que c'est ça, bah, du coup, plus en contraste avec lui. Mais c'est surtout maintenant que je suis très... Je m'embrouille pas avec lui. Je suis très opposé, en fait, à ses idées un peu sur... un peu sur tout. Et j'ai peur de lui ressembler, finalement. Et voilà. Et je lui ressemblais beaucoup quand j'étais encore même au lycée. Et du coup, voilà, c'est ça. Donc, ça m'aide à me dire, tiens, fais gaffe quand tu dis ça. Ça fait penser à ton père. Est-ce que c'est vraiment juste que tu racontes, Axel? Donc, voilà. C'est tout poutait par rapport aux idées et même à la manière d'être avec les gens. Parce que donc, il est très sûr de lui. Et du coup, moi, comme je l'entends tout le temps et je l'entends toujours raconter les mêmes choses, et quand je le vois sûr de lui en train de parler aux gens, je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça, il faut pas que je me reste sûr de moi comme ça. Et du coup, moi, je me construis une image de pas très sûr de moi, d'un peu... un peu... pas sûr, même enfin, on fait des calls, et en fait, même mes camarades me disent, quand tu parles, tu poses une question. Du coup, ouais, c'est peut-être en ça que je m'oppose à lui. Voilà. En simulant, ou ça se trouve, c'est vrai, un manque de confiance en moi dans la manière d'être. Voilà.
Bravo pour votre travail et merci pour votre concentration.
Bon courage. Bien le violet, voilà. Super. Bien battu le violet.
Foi por vontade de Deus. Que eu vivo nesta ansiedade.
Être un bonhomme, épisode 2, Les cordes sensibles. Une série documentaire de Romain Debecq de Lièvre, réalisée par David Jacubovies. Avec Michael Delis, Francis Dupuy-Derry, Daisy Le Tourneur, Dédé Cabal, Florian Voros, Luz, Maria Pourchet et Clara Eich de la Borne. Merci au cœur de Radio France de nous avoir ouvert les portes de ces répétitions, à l'équipe de football du FC Mas Sainte-Puel dans l'Aude et au lycée Jacques de Cour à Paris. Merci également à Vanessa Gomez et Hervé Rio. Prise de son, Yann Frécy, Jeffrey Marianne, Marie Le Peintre, Jean-Guilain Meige et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annelie Signoret. Documentation musicale, Pierre Plantin et Loïc Delacour. Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. À suivre, Être un bonhomme, épisode 3, La grande peur d'Alpha. Teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais para deixar de bater. Se não sabe.